Ça va mal.
Non. Dans le monde, tu veux dire?
Oui, dans le
oui,
monde.
Oui, absolument.
Moi, je voudrais dire que le livre dont on parle aujourd'hui, j'étais vraiment gêné de le lire en public. Parce que j'étais dans l'autobus, tu sais, puis là, tu sais, bon, on s'entend que fascisme et, disons, diversité culturelle, raciale, tout ça, c'est ethnique plutôt, ça passe un petit peu moins bien. Fait que là, j'étais là dans l'autobus, il y avait des gens, probablement, de parcours immigrant autour de moi, puis là, je lisais, tu sais, moi, le caucasien, tu sais, qui lit son livre sur devenir fasciste, je trouvais que ça avait l'air bizarre un peu quand même. Puis là, j'avais comme envie de dire aux gens, non, non, là, il est contre le gars, là, tu sais, puis moi aussi, mais... Bon,
c'est drôle, la seule fois que ça m'est arrivé, je lis beaucoup dans l'autobus aussi, de me sentir mal de lire un livre dans l'autobus, c'était du Michel Houellebecq. C'était plein de scènes pornographiques. Là, j'étais comme...
Mais Le sablier des solitudes,
oui, y
ça
en
m'avait
a...
fait ça aussi.
Oh, oui, hein?
Ouais, il y a très, très, très longtemps. Là, mais...
Oui, je me rappelle.
Donc, Devenir fasciste, publié chez Lux en 2025, écrit par Marc.
Par l'éditeur lui-même de Lux.
Ben oui, c'est ça. Comment t'es tombé sur... Parce que je voudrais dire que le choix de ce livre-là, au début, moi, j'ai proposé un essai qui s'appelait « Tout le monde aime danser ». Puis Suzanne m'a dit « Non, ça va être trop consensuel. »
Mais c'est surtout que c'est très facile à lire.
Tout le monde aime danser?
Oui, ouais, c'est ça. C'est, ben, c'est super cute, là, mais on n'aurait pas eu à beaucoup de choses à dire. Ouais.
OK.
Mais j'ai beaucoup, là, excuse-moi, j'ai oublié l'autrice, là, mais j'ai beaucoup aimé lire ce livre-là. Mais tu vois, je t'invite à le lire pour toi. Ça, comme ça donne une belle motivation. Mais point de vue de l'écriture, c'est pas une écrivaine. Là. Donc, moi, j'aurais pas eu de fun là avec ce livre-là. J'ai beaucoup de plaisir.
Ben, c'était quand même un challenge intellectuel. Puis il faut saisir les références multiples. Dans le fond, devenir fasciste, deux points. Il n'y a pas deux points, mais en tout cas, on imagine un peu les deux points. Ma thérapie de conversion. Donc, c'est Marc Fortier, l'éditeur de Lux, qui se donne, en fait, qui constate un peu la périclitation. C'est un mot, ça?
Tu penses pas? La débandade.
La débandade, oui. De notre société qui glisse tranquillement vers la droite de plus en plus extrême, bon, en se basant particulièrement sur l'Europe, les États-Unis. Des exemples canadiens n'en donnent pas tant que ça.
Non, mais c'est vraiment intéressant de voir. Moi, c'est tout ce qui touche l'Italie. Là, je savais que la présidente, moi, ben, mais là, à ce point, j'étais comme, ben, voyons donc.
Tout à fait. Puis, en fait, c'est ça. Donc, qui constate c'est la débandade dans notre société et... en tout cas.
Mais je dirais.
Je vais les rejoindre. Mais vraiment, en tout cas, ça, j'ai trouvé que la prémisse est pas. Moi, j'ai pas trouvé que la prémisse. Après, le livre est ultra intéressant, mais la prémisse de je vais devenir fasciste, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un peu mou, mettons. Là,
moi, j'ai trouvé ça que c'était extraordinairement drôle.
Ben, c'est un peu troll.
Un angle original qui te fait rire, qui te fait réfléchir. Et qui te fait dire « Ah, comment je peux être du bon côté, tu sais? Ouais. » C'est quoi être du bon côté?
Mais tu sais, il n'y a jamais eu de l'intention de devenir fasciste.
Mais non, c'est de l'humour,
mais
de l'ironie.
Mais en même temps, il y a quelque chose de... Puis ça, c'est intéressant, mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir utilisé un peu les techniques faciles, la droite, pour écrire un livre qui, finalement, la dénonce d'une certaine façon.
C'est quoi une technique facile, la droite?
D'appeler le public avec une fausse prémisse, comme « je vais devenir fasciste ».
Ben, ça peut être autant à droite qu'à gauche. Ça, c'est une technique d'écriture, de rhétorique.
Ouais, mais je parle plus dans la... Ben, en tout cas, dans la malhonnêteté que ça peut...
Non, mais on le sait dès le départ.
Malhonnêteté, le mot est...
Mais non,
est
on le sait dès le départ.
Mais qu'est-ce que tu veux dire, on le sait dès le
départ? On le sait dès le départ. Tu ris dès le départ, là.
Tu le deviendras pas?
Ben oui, voyons donc.
Ben, je sais. mais en même temps, il y aurait eu quelque chose d'intéressant dans le fait de se dire, OK, je m'immerge, puis je veux vraiment m'exposer, par exemple, d'intégrer un groupe, ou, tu sais, puis de... Oh. Un genre de journaliste d'investigation, tu sais, ou... Ben...
Bon. Ouais, donc, c'est plus un effet de style.
Suzanne refuse.
Non, mais c'est parce que c'est littéraire.
Ben oui.
C'est tout ça est littéraire.
Mais moi, je le connaissais pas, Marc Fortier, avant de lire son livre, donc... Je pouvais approcher le livre avec une certaine naïveté qui peut parfois être bénéfique.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quelqu'un qui n'est pas prof de littérature ou qui n'est pas vraiment littéraire peut justement dire « Ah, comme tu dis, là, monsieur, madame, tout le monde qui arrive dans ce livre-là puis qui ne comprennent pas le
deuxième niveau. »
C'est ça.
Ben, non, mais on s'entend. Ouais. J'ai jamais cru là, qu'il allait devenir fasciste, mais en fait, dès que j'ai lu les premières lignes, j'ai compris que c'était pas ça qu'il allait faire pour vrai, mais... En tout cas, la démarche est intéressante malgré tout. Mais donc, c'est ça. Donc, la prémisse étant qu'il veut devenir fasciste. Oh, mon Dieu, on a tout de suite dérapé. Mais la démarche étant qu'il veut devenir fasciste devant le fait que, pour lui, il y a un peu un constat que c'est comme si la bataille était perdue du point de vue de la démocratie puis du progressisme et de la solidarité. Et donc, ponctue chacun des chapitres avec des petites tentatives un peu maigrichonnes de devenir fasciste qui finissent toujours par déraper vers énormément d'exemples des horreurs un peu puis de preuves qu'on est en train de glisser, mais aussi avec des parallèles historiques, énormément de références à des auteurs, à des œuvres, des scènes, des moments de l'histoire. Faut quand même être bien attaché là, quand on lit, parce que puis mais après c'est relativement accessible malgré tout parce qu'il prend le temps d'expliquer les choses, mais c'est quand même de haut niveau quand moins cette aisance là avec certaines références, certains auteurs, certains moments de l'histoire. Je pense quand même que ça prend un certain niveau pour facilement traverser l'œuvre.
Ben, je dirais que, justement, c'est accessible. T'sais, c'est une œuvre que je pourrais mettre à l'étude au cégep facilement parce que c'est accessible. Avec le contenu qu'il y a là. Il y a tellement de choses que j'ai compris. Ah non, moi je le ferais. Je vais le faire, en fait. Parce que, justement, tu peux y arriver avec ses énumérations, son humour, les courts chapitres,
c'est
que
135 pages.
C'est ça, la lecture se fait bien. T'arrêtes, tu réfléchis, ouais. C'est sûr.
Ouais.
Tu lis en deux heures...
Non, c'est pas quelque chose qu'on peut clencher.
C'est parce que...
Non, c'est dense.
T'assimiles... Ouais. C'est parce que à plusieurs moments, tu fais juste... « Oh mon Dieu, comment ça, je savais pas ça? Mm-hmm. »« Oh mon Dieu, c'est vraiment passé comme ça? Oh, »« OK, là, je comprends quelque chose que j'avais pas compris avant. » Tu sais, que ce soit le financement de Donald Trump par les milliardaires.
Avec, c'est ça, l'abolition par la Cour suprême des limites de financement.
Ben oui, ben là, on va entrer, là, présentement, là, en campagne électorale, les partis, tout ça, puis c'est limité, ici, là. Là, tu te rends compte que c'est... Il n'y en a pas de limite!
On se rappelle les fameux scandales, tu sais, de ministres qui se faisaient rencontrer pour 100$ au Québec.
Tu parles, les bruns, il y a quelques semaines à peine.
Pierre Fitzgibbon, tu dis, moi, je ne me ferais pas acheter pour 100$. Ouais. Non, tu sais, il y avait des soupers spaghetti, puis les gens donnaient.
Ben, ou le chef du pays, du prix libéral. Voyons, prix. Du Parti libéral, Rodriguez.
Oui.
Pablo.
Oui, les fameux brownies. C'est ça. Oui, mais tu sais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est, tu sais. On parle de 100$ alors que les États-Unis, c'est des millions, voire des milliards.
Oui.
Fait qu'on, quand même, l'échelle de différence est.
Ah, c'est fou, là.
Ouais.
Non, mais on c'est ça. C'est comme ce genre d'information qu'on apprend tout au long du livre qui est comme. Oui, j'en avais vaguement entendu parler, je l'avais lu quelque part, mais vu que ça se retrouve dans un essai littéraire comme ça. Mm. Ben là, ça imprègne davantage, puisque par la littérature, c'est un essai littéraire, par le style, par la littérature, tu vis une émotion qui est beaucoup plus forte que si tu lisais simplement un article de journal.
Mais tu penses que, parce que là, excuse, mais je reviens à je veux pas mépriser le cerveau qu'on peut avoir à 17-18 ans, tu sais, mais t'aurais pas peur qu'il s'en fasse passer parfois, puis que, tu sais, qu'il y a quand même des...
Oui, mais à quoi ça sert un prof?
Ouais. Mais penses-tu qu'ils vont se faire rejoindre? Ou
ah, ben oui.
Comme prof, qu'il y en a qui sont.
Ben oui, c'est leur première élection. Ils sont super sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent plein d'affaires. Je veux dire, ils connaissaient bien plus de choses que moi, les jeunes, sur celui qui s'est fait tirer. Là.
Charlie Kirk?
Oui, moi, je savais quand c'est arrivé, je savais même pas c'était qui. Là. Ben, tous mes étudiants savaient c'était qui. Là.
Avant?
Ben oui.
Qu'ils se fassent tuer?
Oui.
Parce que moi-même, je savais pas si
c'était. Oui, mais les jeunes, ils sont là sur les réseaux beaucoup plus que tu peux l'imaginer.
Parce que Turning Point USA, son organisation, les rejoignait déjà?
Non, mais c'est que ça... Pas, je sais pas, mais c'est qu'il y a tellement de mèmes, puis de tu sais, Sophie Lou, ma fille, depuis des années, elle m'avait parlé de ce gars-là parce qu'il y avait des trucs sur l'avortement. Il parlait de l'avortement, contre l'avortement et tout. Puis elle savait déjà depuis des années c'était qui parce qu'il y avait plein de choses qui tournaient. Donc, je suis certaine, avec tous ces référents-là, que les jeunes, ils trouveraient leur... Oh, oui.
Puis, vraiment. Est-ce que c'était parce qu'il faisait des fameux clips là, de débat? Là,
oui, entre autres.
Puis qu'il essayait comme d'être ben, en fait, ultra malhonnête cool, puis méchant avec les gens avec qui il débattait. Là. C'était comme... Il y avait un argument, puis là, il coupait ça en disant « Mais toi, de toute façon, t'es conne, tu sais, des affaires que tu fais comme, mon Dieu, ça brisait complètement le
débat. Bon, probablement. Bon, oui, ouais. ça fait des clics, cela, là. Mm-hmm. Puis que les jeunes, ça roule dans leur... les jeunes, ils prennent leur information là, puis c'est des lieux à investir, là. Fait que, surprenamment, ils en connaissent plus qu'on pense, mais c'est pas nécessairement complet, là. Non. Loin de là. Donc, ce livre-là pourrait justement venir mettre du gras après l'os, là.
Mais ouais. C'est ça. Donc, tu sais, l'œuvre fait... plus je reviens, excusez aux gens.
Excusons.
À toi, je te... Mon Dieu, hein, c'est ça, aujourd'hui, c'est pas facile. Mais vraiment, quand même, on a, à travers les chapitres, vraiment une démonstration avec différents éléments historiques du délitement progressif, finalement, de l'État démocratique, notamment aux États-Unis, mais aussi, effectivement, en Europe. Mais avec... bon, on part un peu, je pense, surtout du New Deal de Franklin D. Roosevelt, qui avait comme commencé à mettre en œuvre là, certaines politiques pour, par exemple, la loi, mon Dieu, Glass-Steelman, que je ne connaissais pas du tout, le genre qui protégeait les banques d'investissement puis les banques de dépôt, je ne sais pas trop, mais bref, qui a été... En fait, on part d'un endroit où il y a une construction de l'État-providence démocratique comme il a été conçu dans l'avant-guerre puis dans l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Puis, tranquillement, avec l'arrivée, par exemple, de Ronald Reagan, de Bill Clinton, qui étonnamment était un démocrate qui faisait semblant d'avoir de l'empathie, mais qui a coupé énormément dans les programmes sociaux, comme cette loi-là, finalement, où on a débridé le marché avec le néolibéralisme. Puis ensuite, George Bush qui arrive avec la guerre en Irak, qui a une création, finalement, de la terreur, qui a, je ne sais plus c'est en quelle année, mais qu'il y a un arrêt aussi de la nécessité d'avoir le fairness dans les médias. Donc, maintenant, on peut présenter des positions politiques sans aucune contre...
la création de Fox.
Avec aucune balance, oui, c'est ça. Avec aucun équilibre, en fait, dans les idées. Avec effectivement, Fox qui est créé en 1996 par Rupert Murdoch, qui était un magnat des médias anglais. Australien ou anglais, excusez-moi. Puis finalement, c'est ça avec Bush, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, Obama qui rachète les banques mais qui laisse les gens complètement dans l'indigence.
Moi, Obama, ça te voit quand je.
Ça m'a quand même fait mal.
Moi aussi, ça m'a fait mal. Genre, OK, c'est
mais
pas
je
si beau que ça.
Je savais ça,
là.
Moi, ouais. mais quand même. Mais c'est vraiment. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment.
L'évolution.
La fragilisation progressive, puis là, on arrive à aujourd'hui, tu sais, avec Donald Trump, puis là, on se dit, OK, tu sais, puis on est... Puis là, par rapport à aujourd'hui, là, c'est plutôt les parallèles de l'avant-deuxième guerre mondiale avec la montée du fascisme en Italie, en Allemagne. Puis tous ces petits gestes qui, même à l'époque, étaient banalisés, puis qu'on banalise encore aujourd'hui dans la politique, puis mais qui ont quand même mené à l'extermination, le génocide, par exemple, des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre elle-même. T'sais. Donc, c'est un peu le questionnement de comment sommes-nous à ce point-là. T'sais. Puis bon, ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Ça fait, ça fait énormément de personnes qui posent cette question-là. Mais aussi, en parallèle de ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute la démonstration à quel point ça va mal, même du côté de la gauche puis des États, des institutions qu'on a fondées, dans le fond, avec nos États-providence, notamment.
Je t'ai suivi, tout ça, mais moi, je vois plus comme avant, le fascisme, les fascistes voulaient contrôler l'État. Ils voulaient l'avoir, le contrôle. Maintenant, on veut tout détruire. On veut plus de contrôle de l'État. On parle des libertariens. Puis on sait qu'on s'en va dans la crise climatique, écologique complète. Mmh. Et il explique bien comment ces gens-là, les riches, les milliardaires, les gens de pouvoir, veulent se trouver une planque.
Mais en même temps, c'est ça
une
qui est
planque.
Intéressant.
C'est donc, il n'y a plus cette idée-là d'extermination ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Là. Ça se fait de manière naturelle.
Ça se fait devant nos yeux.
C'est ça, la pauvreté. Ils s'en sacrent parce qu'il n'y a plus aucun filet. Ils n'en veulent plus de filet pour personne. Donc, ils n'ont pas besoin des tuiles, en tout cas. Hein? Tu comprends ce que je veux dire?
Mais oui.
Mais eux autres, ils vont aller où? Quand il n'y aura plus rien? Donc, c'est pour ça que les Elon Musk se cherche des autres planètes, d'autres se cherchent des îles, etc. C'est comme, OK, puis on a vu un avant-goût pendant la pandémie, là.
Ah, tout à fait.
Un avant-goût de ce que ça ressemblait, là. Donc, tous ceux qui avaient les passe-droits, les Guy Laliberté qui étaient cachés sur leur île, sur son île à faire des raves, puis toutes nous autres qui étaient enfermés pendant qu'on regardait ceux qui avaient des privilèges. C'était de toute beauté.
Mais en même temps, moi, j'ai trouvé la morale, en tout cas la morale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a quelque chose d'intéressant dans l'argument qu'il va mener. Puis là, je ne sais plus quel auteur il cite, mais qui disait c'est une fausse conception qu'on a qu'on peut sauver du destin collectif. Le destin, il comparait le jeu et le pluriel et que finalement, l'être humain se définit par les autres comme espèce, finalement, et que c'est vraiment un défaut de logique de penser que... j'ai juste le mot « fallacy » en anglais qui vient, mais un bris de logique de penser qu'on peut substituer au destin collectif de la race humaine. Tu sais. Puis ça, il y a quelque chose quand même d'intéressant là-dedans, dans cette idée que, oui, OK, ils pensent qu'ils sont super puissants, ils pensent qu'ils s'approchent du divin, puis... Et pourtant, finalement, c'est juste une façon d'essayer de continuer à se convaincre qu'ils ne sont pas des simples mortels. Tu sais.
Ah, que c'est intéressant. La dernière phrase, si tu te rappelles, c'est « Un être humain qui n'a pas d'amis est un être humain en danger. »
C'est beau, ça.
Puis là, tu parles ici qui se rapproche du divin, etc. J'avais noté ça pour en parler avec toi, mais je ne suis pas sûre que... As-tu écouté la série The Boys? En as-tu entendu parler?
Très vaguement.
Bon, c'est plein de super-héros, mais vraiment très douteux, là, qui ont une grosse compagnie qui s'appelle Volt. Puis le personnage principal...
Tesla, hein? Volt, Tesla, oui, oui. C'est
le personnage principal des vilains, il s'appelle Homelander. Puis dans la dernière saison, ben il y a un rêve, une vision qu'il faut qu'il devienne... C'est Dieu qui lui donne un pouvoir, puis qui, alors, il va devenir un genre de Dieu.
Homelander?
Oui.
OK.
Donc, puis un peu, il est seul, il n'a pas d'amis, il rejette tout le monde, il tue tout le monde autour de lui. C'est tellement intéressant comme... Bah, c'est une série que je sais pas, c'est rempli de sang, c'est sanglant, c'est violent, mais...
Ouais, je déteste pas ça.
Mais non, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Non, c'est comme une parodie de la politique américaine avec des super-héros, mais pas des super-héros.
Le concept de super-héros, s'il y a quelque chose qui s'approche du fascisme, à mon sens, à moi, c'est l'individualisme à son sens le plus pur.
Ah oui, puis le personnage principal, ben, il représente vraiment tout seul. Il n'a plus d'amis, tout seul, il veut juste le pouvoir pur. Et ça lui vient en pleine nuit, en vision, par Dieu. C'est comme quand ils ont fait Donald Trump, là, c'est avec l'intelligence artificielle, il a fait une photo de lui là, habillé en espèce de Dieu qui fait un avec une apposition des mains là, et tout. Là.
C'était pas sur Gaza ou je sais pas trop.
Je sais pas, mais c'est comme ce qu'on vit devant ce qu'on vit, c'est... J'ai des surcharges cognitives à chaque instant. Là. Voyons donc.
Tu sais que cette photo-là, ils ont dit « Ah oh non, il est comme un guérisseur. »
Et puis là, ils en ont fait une autre comme ça.
Tu sais, quand tu fais quand on parle d'Orwellien puis de alternative facts, on est tellement... Puis que la vérité, puis c'est ça, la vérité n'intéresse personne. C'est vraiment troublant. Mais c'est intéressant ce que tu parles par rapport au divin, puisque c'est ce que ça me ramène, c'est quand lorsqu'il fait le parallèle avec le fait que l'État fasciste ou autoritaire plus là qu'il y a une fusion des branches du pouvoir, en fait, que l'exécutif, le judiciaire et le législatif deviennent concentrés en une seule et même personne, puis c'est ça finalement qu'on est en train d'assister aux États-Unis, puis c'est aussi c'est ça finalement aussi le fait de concentrer dans une seule main, dans une seule personne qui fait... mon Dieu, je sais plus où je m'en allais. Mais qui va dans l'idée de l'individualisme puis de l'État autoritaire puis de la personne qui va tout contrôler, en fait, puis qu'on s'éloigne finalement de notre répartition du pouvoir dans nos États démocratiques actuels, ou en tout cas, ce qu'il en reste.
Que ça te tente qu'on parle du style?
On peut.
Parce que tu as commencé avec ça en disant... Mais moi,
ben, en fait, moi c'est, son style c'est juste ironique. La prémisse de « je vais devenir ». Après, le reste, j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. C'est pas ça, là. C'est juste la prémisse de « je vais devenir fasciste ». C'est comme si, pour moi, je l'ai même pas trouvé drôle. C'était même, je trouve pas que c'est drôle de devenir fasciste, moi, personnellement.
On appelle ça de l'humour noir.
Oui, mais ben, c'est ça. Mais moi, ça m'a pas rejoint.
Donc, l'humour noir ne te touche pas.
Il y a certains humours noirs.
Un peu comme on avait parlé de Royal. C'est juste de l'humour noir.
Ben, ou, moi, j'aime beaucoup les séries de François Letourneau. C'est beaucoup de l'humour noir. Ouais. Mais je sais pas. Celui-là m'a pas rejoint parce que pour moi... T'sais, écouter une série à télé, c'est une chose, mais je trouve que c'est tellement désespérant comme réalité, ce qui se déroule présentement sur la Terre. J'ai de la misère à en rire, personnellement. T'sais. Mais bon. Je comprends, puis j'ai apprécié le livre malgré tout, je tiens à le dire. Là.
Alors, revenons à son style.
Oui, je t'écoute.
Justement, il part dès le départ. Parce que ça se répète.
Il commence.
Or, les meilleurs, tout le monde le sait, ce sont les gagnants. Juste ça, moi, c'est comme... Ça me fait vraiment rire. Je vais devenir fasciste. Voilà, c'est dit. Il est issu d'une famille libérale, intellectuelle de gauche, démocrate de cœur et d'intelligence. Je me tords de dégoût à la simple évocation d'une telle conversion. Immédiatement, je sens monter en moi quelque chose comme de la facho-anxiété. Le passage du dire au faire n'ira pas de soi et la greffe pourrait ne pas prendre. Mais il le faut. Appelons cela un réflexe de survie. Puis après ça, à la fin, avec un impératif, dit « adaptez-vous ». Donc, c'est des dictons
Qui ressemblent à ce qu'on entend dedans.
Ben oui, mais faites juste penser, on en parlera tantôt, mais avec l'intelligence artificielle, là, adaptez-vous, hein? On en reparlera. Voulez-vous de quel côté, les gagnants ou les perdants? Ceux qui manipulent ou les manipulés? Hein? Ouais. Au début de son chapitre, il va faire plein de métaphores, de jeux de mots avec les Romains, par exemple. César, les Romains, les patriciens, les sénateurs. Ça, c'est super bien fait. Il va avoir des métaphores filées là-dessus. Son ironie va ressortir.
Sa fille s'appelle Romane?
Oui! Si c'est... Non, je pense pas. Mais ça... Il va avoir...
québécois? Ou il est français?
Marc Forcier, c'est un Québécois.
Ça sonne québécois, mais je me suis posé la question si...
Non. En tout cas, je dis ça, mais j'ai pas la confirmation, là. OK. Donc, ce qui est fun, c'est qu'il va avoir ce style-là qui est dans la langue, qui va être vraiment drôle. Mais en plus, il s'amuse avec la langue tout le long. Puis après, il y a tout le chapitre sur la langue.
Qui est massacré.
Comment? Ben oui, mais c'est George Orwell. Il fait plein de liens avec 1984. Puis c'est comme... Ce livre-là, c'est incroyable.
Mais en tout cas, on y viendra. Parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle... Mais je veux pas te couper dans... Mais qu'on parle aussi de ce que la gauche, ou ce qu'on en pense étant la gauche... a fini par incarner aussi des idées de la droite. Puis ça, en tout cas, ça serait intéressant, mais je ne veux pas te couper dans ton...
Non, ben je vais revenir à la langue.
Style, oui.
Tu sais que c'est son ironie, donc être du côté des gagnants. Puis à un moment donné, il va dire, c'est ça la différence entre les amateurs et les professionnels. Donc, il va toujours ramener... Moi, j'ai des « ah » partout dans le livre. Là. J'ai des grosses faces effrayées parce que ça n'a juste pas de bon sens, là. J'essaie de trouver des bouts qui m'ont fait rire, par exemple. La première étape de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Est-ce que t'es...
Mais c'est intéressant, il dit puis il parle du salut nazi, tu sais, puis il dit c'est quand même accessible.
Ben oui, mais...
C'est quand même facile faire
Par rapport du salut nazi, dans un article de Chantal Guy de La Presse, il a donné une entrevue, puis il savait pas trop s'il allait le mettre dans son... dans son essai, jusqu'à temps qu'il voit Elon Musk le faire.
Ben oui.
Donc, il a devancé de quelques mois la publication en disant, mon Dieu, je suis dessus.
Oui.
Tu sais, vraiment. Là.
Mais on peut-tu vraiment dire que c'est un salut nazi?
De Elon Musk? Ah oh, bon, on ne parlera pas avec ça. Alors, renonçons à juger, car ce serait mépriser ses nombreux électeurs. Détendons-nous, lâchons prise, résilions-nous, capitulons dans la dignité. Donc ça, c'est super drôle. Puis tout le chapitre avec sa fille aussi, c'est drôle. Parce que justement, son attitude, est-ce que ça pourrait toucher les adolescents et tout. Puis même le sujet, est-ce qu'il allait toucher sa fille, puis là, il joue avec elle. Fait que c'est sûr. Puis c'est justement un livre, probablement. Comment tu fais pour intéresser les jeunes puis leur faire comprendre là, ce qui se passe? Ça, c'est parfait. Là. C'est parfait pour moi. Là. J'ai plein de noms. La langue. Je reviens à la langue. C'est aussi cet écran québécois. On s'entend? Ah oui, oui, je vais te montrer des expressions.
Parce que c'est quand même soutenu, là.
Oui, mais c'est oui, c'est soutenu, mais ça vient, on sait que ça vient du Québec. Ouais. Par exemple, il va dire...
D'ailleurs, il est québécois, je viens de vérifier.
Bon. Se sentait-elle interpellée ou prédestinée à reproduire ce salut par la sa fille, qui n'est rien d'autre qu'une copie totonne du salut romain des fascistes italiens? Donc, tu sais, il y a plein de mots comme ça qui va... Des totons, des totonnes...
OK, mais j'aurais pensé, moi, comme tautologique, là, où je pense...
Non. C'est vraiment dans l'expression très, très québécoise.
OK, mon Dieu, j'avais même pas compris que c'était ça.
Et oui, c'est genre une copie un peu faiblarde.
Non, c'est ça. Je sais c'est quoi que ça veut dire, toton, mais...
Ben, c'est ça, il joue comme ça tout le long, donc...
J'avais même pas saisi que c'était ça qui...
Ah non, oui, mais pour moi, tu sais, puis tout ce qui joue aussi avec le brun...
Ouais.
Tout ce qui est le brun, puis il va parler couleur.
Les chemises brunes.
Ouais, ben oui, mais c'est oui, ben oui, tout ce qui est allemand là. Mm. Puis on va dire les uniformes couleur excréments.
Oui.
Donc c'est drôle. Ah oui, ça m'a fait rire. C'est une caractéristique remarquable des mœurs de l'extrême droite. S'y convertir est à la portée du premier gorille c'est venu.
Ben oui. Ben parce qu'il l'avait enseigné à des singes, parce qu'il disait que
oui.
Il y avait des singes qui avaient appris à faire des saluts nazis, puis. Puis ah, ça, c'est vraiment intéressant, son bout sur les carnavals.
Ah oui, ça, on pourra en parler.
On est toujours...
Oui.
On est jamais sûr si le carnaval, c'est sérieux ou non sérieux.
Okay,
ce qui est finalement un peu comme les rallyes de Trump.
Donc, est-ce qu'on va tout de suite au carnaval? Parce que le carnaval, ça, c'est un chapitre formidable, mais qui a toute une histoire. T'sais,
je t'écoute.
Ben, ça a commencé par les universitaires au Moyen-Âge, dans les universités au Moyen-Âge. Là, c'est la prof de littérature, là. Où, pendant des jours, le carnaval, c'était super important, où les profs jouaient les étudiants, les étudiants jouaient les profs. Puis, il y avait ces changements de rôle-là. Mais comme tu le dis, là, on dirait que le changement de rôle, il n'arrête plus, là. Tu sais, c'est beau, Donald, là. Tu peux-tu reprendre ta place? Ben, t'es un gros cave. Est-ce que tu pourrais... c'est pas ta place, là. Tu sais, on a l'impression de vivre dans un carnaval perpétuel. Les rôles sont inversés,
ben,
là.
Moi, ça me fait penser au temps des bouffons de...
Falardeau.
De Falardeau.
Mm-hmm.
Avec le début, puis il y a des mots que je ne prononcerai pas, là, mais qui parlent de gens d'Afrique qui s'échangeaient les rôles. Dans le fond, les colonisateurs devenaient les esclaves, les esclaves devenaient les colonisateurs le temps d'une fête. Sauf que des fois, c'est malheureusement... C'est que la vraie vie, c'est que c'est pas ça, en fait. La vraie vie, c'est que les colonisateurs sont colonisateurs puis les esclaves sont esclaves, là, en fait.
C'est le chapitre qui s'appelle le carnaval.
Alors, tu l'as dans la table des matières.
Oui. J'avais noté plein de choses intéressantes.
Carnaval politique 63-81.
Oui. J'ai écrit « je vais lire ce que j'ai écrit. Je me rends bien compte que mon excitation est le symptôme d'une régression dans ma thérapie, une rechute dans la frivolité de ma caste de petits bourgeois diplômés. Ben, » c'est sûr que quand tu lis un livre comme nous, bon, on est allé à l'université, on fait partie de cette bourgeoisie-là,
ben,
cette gauche, ces gens qu'on n'est pas stressés si on refait faire notre cuisine. Puis là, tu lis plein de choses, puis en lisant ça... Et la phrase qui l'a mené à écrire ça, il dit « Voilà qui changeait des chorégraphies proprettes, mécaniques, folkloriques, étatiques que le genre cérémonie d'ouverture a l'habitude d'infliger au public. Philippe Catherine, nu et le corps peint en bleu, couché au milieu d'un plat de service, un tel tableau aurait été inconcevable à Pékin, Los Angeles ou Londres. À Paris, c'est possible et c'était sublime. » Moi, quand j'ai vu justement la cérémonie, j'ai fait « Wow! » Puis fan de Philippe Catherine, j'ai dit « Wow! » Puis j'étais épaté. Quand j'ai vu le band des V-Metal, mon Dieu, Gojira arriver avec du feu partout. J'ai comme, waouh! Tu sais, ça s'adressait à des gens cultivés, tu sais. C'était fascinant. Quelques jours après, tous les médias de droite criaient au scandale. La droite religieuse trouvait que c'était une des injures. C'est comme...
On salue
tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Allô?
Bon, donc, on salue Sophie Allou qui nous a interrompu, mais heureusement, j'ai coupé au moment où ça sonnait. Fait que là, j'aurais pas besoin de faire une coupure. Les gens vont comprendre que tu as répondu.
Oui.
Puis que là, on vient de recommencer l'enregistrement. Je sais plus ce que tu dis. On parlait de carnaval.
Oui, ben c'est ça, que c'était un plaisir pour nous. Mais que pour les gens de l'extrême droite, de la droite, extrême droite, ou les gens très religieux, ils criaient au scandale. Mm. Et là, c'est pour ça qu'il dit, j'ai une régression dans ma thérapie, parce que moi, j'ai vraiment aimé ça, voir ça, ces jeux-là, puis ce moment-là. Mais,
ça pose la question, est-ce que sommes-nous en droit de dénoncer, nous qui sommes dans le privilège,
mm-hmm.
sommes-nous en droit de dénoncer ce qu'on constate là, comme le déclin de la société actuelle. Moi, c'est un questionnement quotidien.
OK, on va... Le privilège. On s'entend que moi, j'ai un petit salaire là, comparé au tien.
Oui.
J'ai mon privilège à moi, je suis allée à l'école. Et ça, c'était possible pour tout le monde. Ça l'est encore. Donc, on se doit d'instruire les gens.
Mm-hmm.
Fait que moi, je me sens pas comme privilégiée, entre guillemets, parce que j'ai réussi à aller à l'école, parce que j'ai un emploi. Ce qui me fait battriper, c'est de voir tous les gens maintenant qui ont l'école à trois vitesses, le fait que des gens puissent pas accéder à l'école en raison de ça. Ça, pour moi, et souvent, les gens de la droite, ils gagnent plus d'argent que moi, là.
Ben, oui.
Donc, ce privilège-là, c'est juste le fait d'être instruit, d'avoir une grande variété de connaissances, d'être capable de lire, une flexibilité, juste, exactement. Donc, je comprends. Mais en même temps, je nuance. Parce qu'il y a toutes sortes... On a parlé on a parlé beaucoup de rue Duplessis,
oui.
puis des changements de classe sociale, etc. Mais si on ne parle pas ici de moyens financiers, mais vraiment de connaissances, de culture, puis de savoir... d'avoir accès à des programmes sociaux, à être consciente dans ta tête que c'est important d'aider les gens. Ça...
Ça,
les gens qui sont de plus en plus riches s'en foutent parce que c'est mon argent, moi, mes petites affaires.
Oui.
Puis on dirait que moi, ma classe sociale, qui est ma classe moyenne, tu sais,
élevée.
Oui, selon les statistiques Canada, là. Mm-hmm. Tu sais, j'ai pas de chalet, non. J'ai pas de. J'ai rien, là. Je voyage un peu. Non, mais tu comprends, j'ai pas de possession.
Tu comprends.
J'ai un petit REER, là, tu sais, pour m'assurer d'être capable de payer mon foyer de vieux,
ben,
là.
Oui.
Mais si je l'enseigne, et là, je vais faire attention à ce que je vais dire, dans mon cégep, j'ai des jeunes privilégiés.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup d'argent.
Oui, on est d'accord. Je suis allé au même cégep.
C'est ça. Ça veut pas dire que si t'as beaucoup d'argent, t'as beaucoup de cocologie.
Ah, ben non.
Ben, c'est ça. Ben, c'est d'aller à l'école. Mais là, l'affaire, c'est que ces gens-là de l'extrême droite, moi, je suis l'ennemi à abattre. Moi, je suis dangereuse.
Oui.
Tu comprends? Les enseignants, les universitaires.
Je pense que moi aussi. Là,
dans la liste, t'es pas là.
dans la liste des...
Dans la liste de Marc Forcier, je l'avais noté.
Je peux comprendre parce que j'ai énormément de collègues qui ne pourraient pas être définis comme des grands intellectuels.
Non, mais regarde bien, tu vas voir ce que je veux dire. Qui vote pour le Rassemblement national? Des racistes, sans doute, mais aussi, constate le sociologue Félicien Faury, des individus remontés contre l'élite du diplôme, dont ils détestent la suffisance. Les électeurs de l'extrême droite méprisent les maîtres de l'usage de la parole. Enseignants, écrivains, journalistes, avocats, hauts fonctionnaires. Là, j'ai écrit, mais où sont les médecins? Parlons-en.
C'est vrai.
Mais pourtant...
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Et où sont-ils? Mais moi, c'est parce qu'en même temps, un médecin, dans d'autres pays, il ne gagne pas autant d'argent.
Oui, mais il est
Québécois, c'est un autre sujet. Mais ben, mais il cite quelqu'un, là. C'est un sociologue.
Okay, ben,
si tu vas en France ou tu vas en Europe, ouais. Les médecins, c'est pas des héros comme ici, là, qui prennent tout l'argent. Là, il ne faut pas que je me craigne. Je t'adore, mais mon Dieu, que j'ai de la misère avec ça.
Ben écoute, mais encore une fois, moi, ce que je veux dire, c'est... Je suis d'accord que, d'un point de vue peut-être économique... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que...
T'es capable.
Présentement, on a un désengagement sociétal à l'égard de nos institutions, à l'égard de la démocratie. Et donc, les gens qu'on souhaite aider, ou qu'on souhaite aider, mon Dieu, ça sonne tellement paternaliste, mais on a une masse de peuple qui possiblement n'a pas eu la chance de faire des hautes études, n'a pas un revenu qui est soit dans la moyenne ou plus bas. Puis malgré tout, ça fait partie des gens qui peuvent embarquer dans un mouvement de droite ou d'extrême droite. Puis là, nous qui sommes, je pense, malgré tout privilégiés de par l'éducation et, dans mon côté en tout cas, de par un revenu qui est complètement disproportionné à ce que ça devrait être, je me demande tout le temps comment je peux me positionner. Je sais jamais trop quelle voie prendre pour... Parce que qui suis-je pour parler d'inégalité sociale, tu sais, d'une certaine façon, tu sais? Puis là, je veux pas ramener ça à...
Non, mais juste le fait de prendre la parole, juste le fait de dire, de le dénoncer, parce que c'est important.
Oui, mais t'as lu que notre joie demeure, puis Céline, qui fait juste dire, moi, je suis contre les inégalités, mais qui finalement est tellement bien dans sa richesse.
Oh, je l'haïs.
Mais c'est ça!
Oh, je l'haïs.
Mais c'est faux de dire qu'on n'est pas bien quand on a un revenu. Là.
Bravo, Kev Lambert. Quel livre incroyable. On en a-tu parlé ensemble?
Non,
quel livre incroyable.
On n'a pas traité ensemble, on a parlé. Ouais, il est bien bruyant, ce cellulaire-là. T'as-tu un piton silencieux?
Oui, je viens de le mettre, là.
Ah, bon, c'est bon. mais donc, c'est pour ça que moi, je dis ça, puis, tu sais, moi, j'ai plein de collègues que j'adore en santé publique qui, une grosse partie de leur travail, c'est la dénonciation des inégalités sociales de santé.
Mm-hmm.
C'est très dur à faire quand tu gagnes plusieurs centaines de milliers de
dollars par année.
Vraiment, vraiment difficile. Oui. Qui es-tu pour... Puis, c'est pour ça que moi, j'ai de la misère avec notre posture de prôner la solidarité. Tout ça, quand on bénéficie des mécanismes, puis de tout le... Parce qu'il va mentionner à plusieurs endroits les élites repues, satisfaites dans l'architecture bureaucratique, technocratique de notre gouvernement, puis de nos institutions, puis... Et en santé publique, là, quand on parle de novlangue, là, c'est horrible, moi, ce que je vois là, parfois.
Ah, c'est un beau passage.
Dans le réseau de la santé, là, des mots là, que je vois passer, là, que je me vomis le corps là, quotidiennement, ou hebdomadairement au moins, tu sais. Puis, ouais, mais je parle fort au moins. Bref. Mais c'est ça.
Mais il faut pas
sens à ce que je dis là.
Non, ça a du sens, mais c'est difficile. Tu te sens comme pas à une bonne place pour...
Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir un revenu de rien, là, tu sais.
Mais je veux dire, si t'as une place où tu peux justement parler de ces inégalités-là.
Ben oui.
Moi, ce que je veux, c'est sauvegarder nos institutions, parce que nos institutions comme d'éducation, nos institutions de santé, c'est ça qui... On en a parlé, s'il y en a qui nous suivent depuis de nombreuses années maintenant. Sérieux, hein?
2023? Oui, mais je pense que la première publication, ça a été en 2020. On a enregistré en 2023, mais la publication, c'est en 2024.
Quand même.
Oui.
Puis, de nombreuses années déjà. Moi, c'est ma société qui m'a permis de sortir du ballonné, là. C'est l'école. Chez nous, quand mon père est décédé, il a laissé des dettes puis trois paires de bobettes sur le divan. Toute ma société m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, éduquée, en forme. Et là, la génération d'après nous n'a plus cette chance. Ça me bouleverse. Eh oui, mais on est à la limite, là. Et c'est justement ce qu'il dénonce. Ouais. Puis il dit, là, c'est là. C'est maintenant qu'il faut que ça se passe.
Puis c'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin... Puis moi, c'est ça qui m'effraie. On a-tu besoin d'une troisième guerre mondiale? Faut-tu tout pète pour qu'on le reconstruise ou on est capable de le réformer?
Les élites milliardaires de la planète sont persuadées que c'est ça qui va se passer.
Ah, puis, c'est ça qui est horrible. C'est qu'au lieu de contribuer à le réparer...
Puis dans le milieu ésotérique auquel j'appartiens en tant que prof de yoga, l'ère du Verseau, tous ces gens-là sont persuadés que ça va arriver aussi. On est arrivé à la fin. Et là, au lieu de vouloir se cacher dans des îles, le monde plus spirituel... Ben justement, développent leur spiritualité, développent leur solidarité, essaient de trouver des alternatives pour pouvoir faire partie de ce nouveau monde-là qui s'en vient, parce qu'on le voit à vitesse grand V. Là. Ça va à la vitesse grand V. Là. C'est cette semaine là, en Inde, là, 50 degrés partout. Partout. Et dans l'indifférence générale. tu le sais comme médecin ce que ça fait, là? C'est tes organes de l'intérieur qui explosent. Ben là, mais en tout cas, tu peux l'expliquer de manière scientifique, mais c'est tes organes qui ont tellement chaud qu'ils ne fonctionnent plus.
Il y avait eu moi, j'ai lu beaucoup le Guardian. Il y avait un bon pavé là, sur une famille itinérante en Inde.
Oh mon Dieu!
Qui sont comme 5-6, là, tu sais, puis j'allais dire la pauvre femme, mais tu sais, qui a eu 4 enfants dans la rue, là, tu sais, puis qui doit s'en occuper.
Des intouchables. Les intouchables, ben, c'est les castes, là. Les intouchables, ils sont dans la rue, qui ramassent les déchets, etc. On appelle les intouchables.
T'sais, comment tu survis à ça? Ouais. C'est horrible.
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça se passe. L'extermination se fait naturellement de par ces inégalités sociales-là. C'est comme... Ils sont là, on les voit aller, mais l'individualisme a tellement prend une place importante.
L'égoïsme, moi, c'est ça que j'ai trouvé beau. L'égoïsme, c'est ça, tu sais, qu'on est passé de l'individualisme à l'égoïsme, puis ça, j'ai trouvé ça beau, parce que c'est ça, moi, qui m'horripile dans notre société, tu sais. Puis on parlait de la COVID, mais j'ai tellement eu mal, quand même, de par notre... pas de solidarité, notre absence de capacité à se tenir les... Moi, j'allais à l'épicerie et j'avais mal de voir les gens se garrocher pour voler le pot de les tomates en dés à l'autre personne.
T'as vu ça? C'était...
Ben non, mais tu sais, je suis arrivé à l'épicerie, il restait plus rien. Puis j'étais comme...
Ouais, mais il y a une différence entre ça et quelqu'un qui vole les tomates à quelqu'un.
Non, je
là.
Sais, mais quand même que... Tu sais, le papier de toilette...
Oui, ça, c'est moi...
Mais il y a quelque chose de ça là-dedans. Là,
ben complètement.
Moi, je veux m'assurer de l'avoir pour pas que l'autre l'ait, tu sais, puis que t'es rendu que t'as 3...
Mais ça, c'est quoi? Tu sais quoi, ça? C'est un manque d'éducation. On sait très bien qu'avec un bidet ou avec une débarbouillette d'eau chaude, c'est beaucoup plus propre. On le sait. Mais pourquoi que tu le sais?
Mais parce ça fait des dégâts les bidets.
Faut que tu sois éduqué pour le savoir. Moi, je suis jamais allée chercher le papier toilette. Je regardais les gens, je me disais, voyons donc, vous êtes complètement fous. Des débarbouillettes, la gang. De l'eau. Justement, en revenant d'un voyage d'un mois en Inde, il n'y a pas de papier de toilette en Inde, là. Les gens se lavent avec de l'eau. Allô? Il
faut se laver les mains après, là.
Mais oui, mais tu te les laves. Tu te laves les mains.
En fait, il faut se les laver même avec du papier de toilette, là, aussi.
Mais... Oui, s'il vous plaît, en santé publique, ici.
Malheureusement.
Oui, non, ce manque de solidarité-là, puis ce manque...
La
plupart de mes amis, là, ou surtout les générations plus jeunes, ceux qui ont 30-35 ans, là, que je vois, là, dans leur tête, c'est sûr qu'ils vont envoyer leurs enfants à l'école privée s'ils ont de l'argent. C'est sûr. Ils se posent même pas de questions. Parce que
on va réformer le système.
Exact. Pour eux, leurs enfants, s'ils veulent une bonne éducation, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ailleurs, il n'y en a pas de bonne éducation selon eux, selon les jeunes. Mais c'est le message que la société envoie depuis des décennies parce qu'on a tout, on a laissé aller ça.
C'est les statistiques le monde présentement. Mais après... C'est ça, moi, tout le temps, la fausse bonne idée, la fausse solution qui est de l'envoyer au privé au lieu de...
Non, c'est terrible.
Ça me fait mal, ça.
Ça me scandalise. Ça me scandalise.
Mais c'est ça. Puis moi, c'est ça qui... Parce que j'ai trouvé la fin du livre super intéressante dans cet appel à l'amitié, à la solidarité, mais je suis comme... Moi, parce que c'est un peu, c'est une partie de mon travail d'essayer de la créer ou d'accompagner les gens qui la créent plus que de la créer moi-même parce que je suis un peu plus dans ma tour d'ivoire, malheureusement. Là, mais comment on enjoint les gens, tu sais, à... Puis moi, c'est le... Comment je te dirais? Puis c'est parce qu'il parle aussi de la perte de sens, tout ça. Moi, j'ai de la misère à comprendre parce que j'ai toujours cherché le sens depuis que je suis tout petit. Je suis fait de même. Puis c'est pour ça que je suis devenu un peu rigide, plus de voiture, dans une ville dense, dans un centre-ville où il y a de la place pour tout le monde, où les déplacements sont logiques, pas manger de viande pour protéger la planète, de pas prendre l'avion, mes vêtements, il y a toute cette réflexion-là de logique que j'essaie de me créer pour donner du sens un peu, de solidarité, de la danse, l'art. Mais là, je me dis, mais tu sais, je suis...
Si t'es tout seul, ça sert à pas grand-chose.
Exactement. Mm-hmm. Puis Puis je dis ça, puis j'ai serré la main du diable parce que j'ai acheté un billet d'avion.
Oh, tu vas aller où?
Non, je reviens d'un endroit, en fait.
Comment ça, je savais pas ça?
Parce que je m'en vais danser à Toronto cet été, faire ma petite, comme j'ai fait l'été dernier, une petite séance. Puis là, je regardais le temps pour revenir, tu sais. Puis c'était le même prix pour prendre l'avion que de prendre le bus ou le train. Puis ça prenait une heure et demie au lieu de 13 heures de temps, tu sais. Parce qu'on a, encore une fois...
On va avoir un TGV bientôt.
C'est pas fait. Moi, j'en reviens pas, tu sais, qu'on a aucune ligne directe, que le Canadien national a priorité sur les trains d'humains, tabarnak, que l'autobus, il passe juste par Ottawa, fait que tu rajoutes 2 heures de temps pour te déplacer entre Toronto puis Montréal, tu sais. Comme des affaires que ça n'a aucun sens.
Et oui, toi qui étais allé au Japon, là, quand tu vois comment le transport est... Est formidable.
Mais c'est la démonstration même de notre incapacité à serrer les coudes. La voiture, le refus de prendre le transport collectif puis d'être mélangé avec la plèbe, là, puis là, je dis ça vraiment avec des gros guillemets, c'est ça. Moi, ça me... Mais je me dis, mais mon Dieu, mais comment...
Mais en même temps, il faut que... Si tu as un bon système de transport, les gens vont le prendre.
Mais en même temps, pour avoir un bon système de transport... Il faut accepter que la voiture ne sera pas la meilleure façon de se déplacer. Puis ça, puis de financer adéquatement aussi, bien sûr, le système. Mais ça, les gens c'est épidermique. Mais en même temps, pour avoir un bon système de
transport... Ma voiture, mon choix.
Oui, mais il faut arrêter de faire des banlieues.
Ouais.
Tu sais, moi, c'est ça. Là, c'est...
Oh, mais ça densifie quand même ces temps-ci. Là.
Oui, oui, je suis d'accord.
Ouais. Mais oui.
Tu sais, puis...
Il y a des Avello au coin de chez nous.
C'est tout ça, moi. Puis là, je me dis, mais les gens, ils veulent rien savoir. C'est tout...
Les gens, c'est large. Une partie de la population.
On regroupe 5% de la population.
Ah, je sais.
Les gens qui pensent comme nous. Là, ouais.
J'avais noté des questions pour toi. Quand j'ai fait ma lecture, je pensais à toi. Ça, c'est vraiment une lecture. Je savais que j'allais te voir.
Ben oui. Ah, tu l'avais pas déjà lu avant qu'on se dise...
La définition du fascisme, page 56 dans le...
Ouais.
Je voulais savoir ce que tu en penses. Puis justement, parce que j'avais lu un article, une critique de Jean-François Lisée qui dénonçait la plupart des livres qui étaient sortis dernièrement sur le fascisme, dont celui-là de Catherine Dorion... ou celui-là de Frédéric Bérard, au chevet, en tout cas.
Que j'ai pas lu, j'ai rien lu.
Non, puis il y en avait plusieurs. Puis il disait que la plupart des livres de ces essais-là n'étaient pas capables de définir ce qu'est le fascisme. Moi, j'étais comme pas vraiment d'accord. Puis surtout que là, ça lisait à la page...
C'est plus 55, moi, je trouve.
Ben oui, attends un peu. Donc, définition, c'est ça. Le mouvement de Mussolini, bon, on part de Mussolini, c'est vraiment intéressant quand même, voyait le jour, sa raison d'être, le combat. Son mythe, la grandeur de la nation, personnifiée par le charismatique Duce, éprouvé surtout dans la haine de ses ennemis. Qui sont ces fascistes? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ces questions, Mussolini les trouvait oiseuses. Qui sommes-nous? Une force nouvelle, insolite, un antiparti qui fait de l'antipolitique. Le nazisme ne parlait pas un autre langage quand il prétendait incarner une force anti-système en raciste. L'action avant tout. La doctrine suivra. La recherche de l'identité du fasciste s'arrête à peu près là. Son idéologie procède de l'émotion plus que de la réflexion. Et un peu plus loin, la nature apparemment insaisissable du fascisme autorise plusieurs analystes à douter de la réalité d'une version contemporaine de cette doctrine. C'est là que probablement Jean-François Lisée... Donc c'est comme si que ça pouvait pas être aujourd'hui. Là. Ça pouvait pas exister.
Je sais plus
si de ce qui a jadis tenu lieu d'identité du fascisme, le culte du combat et de la violence. Alors, puisqu'il n'y a plus ce culte du combat et de la violence...
Après, il fait la démonstration qu'il l'a encore, mais qui n'est pas aussi pire.
Ben, c'est différent, c'est juste que ça a évolué. On n'aura pas de camp de concentration.
Ben,
là.
C'est ça, mais après, c'est ce que j'allais dire. Là.
Ce que j'espère.
C'est que, c'est où dans le livre, mais il dit très bien... T'sais, on va dire souvent l'histoire se répète toujours, mais l'histoire se répète, mais jamais de la même façon. Puis c'est ça qu'il dit dans le livre, tu sais. Puis de penser que ça va être exactement pareil avec des camps de concentration, puis que ça va être des Mexicains au lieu des Juifs, tu sais. C'est pas. Tu sais, effectivement, ça se passe. Mais voir après ça des familles séparées, des camps, de les prisons qui sont remplies d'immigrants aux États-Unis. Après ça, ils n'ont pas commencé à les gazer, fort heureusement, mais après, l'emprisonnement massif des populations migrantes aux États-Unis, racisées aussi, c'est pas une forme aussi de détention forcée, tu sais. En tout cas, je sais pas trop ce que c'est, mais l'état de droit qui s'écrase avec une cour de justice qui est rendue complètement biaisée, un droit de vote qui s'est rendu extrêmement difficile dans plusieurs états d'aller voter quand t'es issu de minorité ethnique, ou que t'as des questions super difficiles à répondre pour avoir le droit de voter, parce que c'est comme s'il y a un test avant de pouvoir voter, puis ils savent que certaines communautés sont moins éduquées, ont moins bref, ce sera plus dur finalement d'avoir accès au vote pour ces gens-là, ou le gerrymandering où ils défont les... bref, mais en fait, ce que je trouve intéressant, moi, c'est plus... Effectivement, c'est pas défini, mais en même temps, ce qui décrit qu'on n'est pas dans l'idéologie, qu'on est davantage dans l'émotion, c'est exactement ça qu'on voit avec Trump. Trump change d'avis. Il fait juste dire n'importe quoi constamment.
Oh, tu te rappelles le passage sur la langue? C'est impossible pour les traducteurs de traduire ce qu'il dit.
Il n'y a pas de pensée.
Il n'y a pas de logique.
Non.
Donc, il arrive pas, puis il répète 20 fois le même mot. Donc, pour les traducteurs, c'est...
Mais c'est
capoté,
drôle, parce que des fois, on entend les extraits de radio, parce que j'écoute jamais ça, là, mais on est comme à la télé, mais là, t'entends le traducteur qui essaye de oui, toutes les manières.
C'est drôle.
Puis pas au vœu, tu sais. Mais donc, en fait, est-ce que...
OK, mais si je reviens à la définition.
La définition.
Ben moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, dans le fond, on veut que vous le lisiez ou que vous l'ayez lu ou peu importe.
Bien, on assume que vous l'avez lu si vous écoutez le podcast.
Ah, c'est vrai, c'est comme ça que tu... Donc, le fascisme historique, celui de l'Italie, de l'Allemagne, a été engendré par les traumatismes de la Première Guerre mondiale. Donc, moi, c'est là aussi que concrètement, là, j'ai plus compris d'où ça venait.
Oui, mais ça, c'est super intéressant. Moi,
ouais. Puis après ça, qui sont les premiers fascistes? Pour l'essentiel, les membres de groupes paramilitaires structurés pour lutter contre les mouvements sociaux déclenchés par la gauche révolutionnaire et pour réconcilier la nation après l'épouvantable expérience de la guerre. Mais là, quand tu regardes ce qui s'est passé, par exemple, l'invasion du Capitole, c'est des groupes paramilitaires, c'est des gens un peu désorganisés, mais qui sont comme en révolte de je sais pas trop quoi. C'est flou, là. C'est flou. Mais c'est juste... C'est là que moi, cognitivement et humblement, je peux pas expliquer. Il y a des intellectuels, des sociologues, explique? Des historiens qui sont être meilleurs que moi. Moi, je suis la prof de littérature fascinée par l'écriture de Marc Forcier. Mais...
Comment on explique les Allemands qui ont fait la population générale qui a fermé les yeux en sachant très bien que les camps de concentration étaient là et qu'il y a des gens qui allaient
mourir
de manière...
Oui, mais ça, c'est la dissonance cognitive. Là. Volontairement, tu t'oublies. Comme... Tu le sais, là. Tu sais que manger des animaux, ça n'a pas rapport. Mais tu le fais pareil. Tu le sais que l'école à trois vitesses, ça n'a pas rapport. Mais on le fait pareil. Tu sais que les hôpitaux qui tombent en miettes...
Mais tu sais que les hôpitaux tombent en miettes, tu es médecin et tu t'incorpores pour payer moins d'impôts. Ça, moi, ça me met en tabarnak.
Ah, c'est épouvant. Non, mais justement, on parlait d'individualisme, etc. Pourquoi ils ne sont pas dans ma liste, les médecins? C'est toutes des petites entreprises individuelles. Mais on laisse aller ça. On laisse aller ça. On a essayé là, quelques mois. Là.
Mais tu sais que c'est nouveau
pas
que les médecins peuvent s'incorporer.
Ben, ça fait pas combien d'années?
C'est genre nouveau.
Une dizaine, 20, 30 ans?
Ouais,
là?
C'est ça. C'est genre début des années 2000. Là. Mmh. C'est Philippe Couillard dans le gouvernement de Jean Charest.
Merveilleux.
C'est fou, là. Tu sais, c'est pas... Mais tu sais, quand on parle de petites micro... brille. En fait, ça ne s'effondre pas d'un seul coup. C'est vraiment tranquillement, ça s'accumule. Mais comment on... C'est ça, moi, qui m'obsède parce que je travaille dans ce réseau-là. Comment on le simplifie, comment on le décrasse, là, d'une certaine... très vulgairement dit, là, pour que ça recommence à bien... puis ça a-tu déjà bien fonctionné? Tu lis des articles des années 80, puis les gens étaient déjà fâchés contre le réseau de la santé. Là, mais quand même, je pense qu'on atteint des sommets dans le dysfonctionnement de notre réseau. Puis chaque semaine, moi, je vois des choses passer, tu sais, qui... Puis on va pas voir les journalistes à chaque fois, tu sais, mais mon Dieu, ça ferait la une. Je vois des chroniques de Patrick Lagacé, là, tu sais, ça sauve une personne, là, mais... une imprimante qui coûte 40 000 $ parce que ça passe par 28 comités avant de se rendre jusqu'à... Bref. Ouais.
Non, c'est un autre sujet. En as-tu un livre qui parle de médecine?
J'en ai un en haut qui s'appelle...
Je ne suis pas sûre que je suis la bonne invitée pour ça.
L'indomptable mammouth.
Ah oui, j'ai vu ce livre-là passer.
Je l'ai volé à des collègues.
Là, on est rendu à combien d'essais? On a fait l'essai sur « Pas voyager ». On a fait, ouais, devrions nous encore voyager.
D'essais, en fait, que du roman.
Ben c'est parce que y a pas une, c'est pas une histoire, non, là. C'est ça. Il y a des personnages, il n'y a pas de description, etc. Mais ça, c'est un essai littéraire. On peut en parler. T'sais, on a dit plein de choses super intéressantes. Mais est-ce que tu commences à voir que sa prémisse ironique est bonne?
Non!
C'est vraiment bon. C'est mais formidable. Moi, j'aurais détesté lire un livre comme ça qui avait juste m'expliquer sans cette tonalité-là. J'aurais trouvé ça juste succession de statistiques. J'aurais fait, bon, OK. Tandis que là, je pouvais m'arrêter pour rire. Je pouvais m'arrêter pour penser à comment je le reçois. Je pouvais être ébloui par... une métaphore filée, une façon d'écrire. Puis il dit à quel point il aime les mots. Pour lui, c'est important, les mots, tu sais, en tant qu'éditeur et tout. Puis ça paraît dans son livre, là. C'est vraiment un plaisir de lecture incroyable. Où il a voulu mettre... justement, tu parlais de vocabulaire technique, là, bureaucratique. Il a voulu mettre en poème le vocabulaire... Ouais. Le vocabulaire
quand tu dis
un peu...
demandes de subvention, tu sais, puis qui est comme, je sais plus comment dire au monde que moi, je suis un éditeur, puis que je publie des livres, tu sais, puis que là, il faut que ça devienne comme une œuvre collective de réflexion organique sur le sens. Puis là, t'as demandé, t'es comme, mais tu sais, ça fait tellement rien, tu sais.
Non, c'est ça. Oui, quand complètement. Donc ça, c'est vraiment cool.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant, c'est quand il mentionne le Code civil de 1840... qui était lu par Balzac pour avant de
oui, écrire ses parce que c'était bien écrit.
Parce que c'était facile à lire pour à peu près tout le monde.
Ouais.
Puis je me dis, oh là là.
Mais c'est surtout bien écrit.
Ouais.
Il y avait du style. T'sais, c'était pas fait par une IA, là. Il y avait du style dans sa façon d'écrire, du rythme, du mouvement. Ben oui, ça, c'est vraiment formidable comme... Bon, c'est plus le monde dans lequel on vit, là.
On pourrait, mais on... Ben, c'est ça, moi, que je me dis, mais...
Ben, on est en train de tout déléguer, justement, on voulait en parler de l'IA. On est en train de tout déléguer à ces machines-là. Si tu savais ce qui se passe dans le milieu scolaire,
c'est sûr.
C'est capoté. Moi, j'ai reçu des MIO cette session aussi avec l'étudiante. Une étudiante avait oublié d'enlever le prompt. Ben, ouais. Puis ce qu'il lui a dit, c'est « Ah, si tu veux répondre à ta professeure dans un langage correct et précis, voici l'exemple. » Elle a oublié de l'enlever pour m'envoyer une demande quelconque. Elle me l'a envoyé direct. Donc, le jeune, pas capable d'écrire un petit message à sa prof pour dire « Écoutez, est-ce que je peux avoir une reprise d'examen? » Non, non, demande à ChatGPT. On est rendu là.
Mais comment on redonne? C'est ça, encore une fois. Comment on crée le sens chez ces gens-là? Comment on les accroche à quelque chose? Moi, c'est ça qui m'obsède et qui m'attriste.
C'est qui ces gens-là? Là?
Ben, ces jeunes-là, dont, cette jeune-là dont tu parles, qui représente malheureusement plusieurs autres jeunes.
Bon, mais c'est parce que pour eux, tu ouvres l'ordinateur et elle est là. C'est un moteur de recherche comme un autre. Là. C'est juste qu'on est en train de se faire... envahir par les grosses compagnies. Là.
Que les gens ne se rendent pas compte
Ben, ils sont conscients. Si tu regardes là, dans les dernières semaines, là, dans les...
L'ouverture des centres de données.
Là. Non, dans les universités, Harvard, plein d'universités. D'abord, il y a une dame qui est venue faire un discours, puis là, s'est fait huer en vantant le monde de l'IA dans le domaine du travail. C'est fait juer par les étudiants. Puis là, il y en a un autre qui est arrivé à Harvard, il a dit « Kill it! » Il dit « Tu es là! » Oui, c'est le défi de votre génération. « Kill it! » Je le ferai écouter. Là.
Oui, mais Claude, il est super aidant. Là.
Ah oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est dans le domaine de la réflexion, de la rédaction, de...
Parce que c'est intéressant, parce que moi, j'écoutais aussi un podcast cette semaine, puis il comparait la réaction du peuple chinois à l'IA versus le peuple américain, qui est En fait, en Chine, ils ont pas essayé vraiment de l'intégrer pour la population générale avec des vidéos connes, puis des... Eux, c'est surtout utilisé comme une technique de, par exemple, de codage efficace.
Ouais, programmation.
De programmation, ouais. De surveillance, mm-hmm. Puis de contre-terrorisme, en tout cas, t'sais, espionnage interétatique, armes de défense. T'sais, c'est vraiment plus utilisé dans une optique sécurité
mathématique.
Nationale. Ben oui, mais sécurité ouais. nationale, t'sais. Versus nous, qu'on est comme pognés avec des cochonneries à la TikTok et machin, tu sais, mais moi...
Ben, c'est utilisé pour rédiger, trouver des idées, c'est, on l'utilise... C'est, non, mais c'est terrible.
Je m'en sers jamais. Ben, je m'en sers... C'est pas vrai. Je m'en sers parfois, mais c'est ça, je comprends même pas, moi, comment tu gagnes du temps à écrire un courriel par l'IA, parce que moi, je sais mon intention, je connais le sens des mots que je veux utiliser, et donc je peux même pas comprendre comment l'IA pourrait saisir... la complexité d'une pensée que j'exprime envers une personne.
Oui, mais là, c'est pas ça qui se passe chez nos jeunes.
C'est ça, c'est ce que je te dis.
C'est un ravage.
J'ai une misère à concevoir. T'sais.
C'est un ravage.
Ah, c'est sûr. Non, puis j'ai pas de misère. Puis, mais moi, c'est que ça s'inscrit dans, tu sais, le cellulaire, l'aliénation, dans cette perte de sens qu'ils ont, le sens. Puis c'est ça qu'il, tu sais, qu'il dit une démocratie qui perd son sens de lutte aux inégalités, de domination par les dominés sur les dominants.
Ben oui, puis ceux qui maîtrisent l'IA, ben c'est les dominés.
Ben exactement.
Les dominants, c'est-à-dire.
Exact. donc, que à ce moment-là, c'est là que la démocratie s'effondre. Mm. Puis c'est ça qu'on voit. Et donc, moi, je me dis, comment on redonne le sens? Puis, parce que je me dis, quand même, tu regardes justement avant...
As-tu vu comment qu'ils appellent ça, les gens, cet effondrement-là de tout? Comment qu'ils l'appellent dans les...
Non, j'ai pas...
L'événement.
Oui, ah, la crise climatique.
Ouais. L'événement, quand tout va lâcher. Ouais. C'est comme chronique d'une mort annoncée. Là. Mais... Fait que quand tu dis comment, ben quand tout va lâcher.
Mais en même temps, tu sais, moi, je regarde le... Puis je pense aux... Ils appellent aux États-Unis les Robber Barons, là. Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, qui dominaient la société là, avant le crash boursier de 29. Vraiment, qui possédaient tout, tu sais. Puis... Ils ont réussi à reprendre le pouvoir malgré tous ces gens-là. Et donc, je me dis, comment on peut... Mm. Puis je dis ça. Y a-t-il des parallèles? Peut-être que ça pourrait être moins bien. Puis... Mais c'est juste une réflexion que j'avais sur ces familles-là extrêmement riches qu'il y avait, qui ont... Puis l'État américain, à l'époque, avait réussi à reprendre le contrôle sur ces immenses fortunes-là. Après, ils sont restés riches, pareil. Mais quand même, le pourcentage de détention de pouvoir, de richesse, en fait, avait vraiment énormément baissé. Puis je me dis, donc, est-ce que déjà, tu sais, on parle parfois de taxes sur les riches, de si on pouvait au moins déjà commencer à rétablir les mécanismes fiscaux qui sont complètement inadéquats puis dysfonctionnels en ce moment, avec tous les paradis fiscaux, la capacité de cacher sa richesse, s'il y avait déjà une façon de rééquilibrer ces éléments-là dans la société, est-ce que déjà on ferait des pas graduels vers... En tout cas, moi, c'est le genre
ben,
de choses...
Oui, ben, c'est, oui, puis ça, il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on ait des gens qui ont pouvoir, qui comprennent ça.
Ben, ils sont dessus. C'est ça. Moi, c'est
mais
ça,
tu sais, on parle de ça, et ici, c'est comme... C'est encore à notre portée. C'est encore à notre portée ici.
Oui.
Mais tu sais, dans d'autres pays, justement, que j'ai appris dans les enlèves, en Italie, par exemple, qui interdisent les raves.
Oui.
Ou que, bon, il y a plein d'autres trucs, ben, tu sais, comme homosexuels, il y a plein de d'interdiction, de lutte, c'est comme indécent. Mais comment ça se fait qu'un pays comme l'Italie t'interdit la danse?
Mais la danse,
on est en 2026.
Contrôle. Il y a, j'ai, puis, je l'ai juste...
C'est Footloose.
J'ai la revue Spiral.
Oui.
Puis c'est leur dernière édition. C'était justement sur la danse comme œuvre, comme outil de...
Contrôle,
non,
de lâcher prise.
Désobéissance civile.
Désobéissance civile. Ben oui, mais un rave, c'est ça. Tu sais ben pas c'est exact. Où, t'es toute une gang. Tu sais, quand il y a...
Consommation de substances.
La grosse affaire. Ouais, mais t'es pas obligé.
Non. Moi, non. Moi, le premier, mais moi, de toute façon, j'aime trop dormir. Il faudrait que ce soit des raves de jour.
Non, mais c'est terrible quand même, quand j'ai lu ça, là. Donc, c'est ça que j'allais dire. C'est quand même, ici au Québec, c'est à notre portée de pouvoir...
Je pense.
...rétablir tout ça, en dehors du Canada. Je m'excuse, Fred, mais c'est vraiment à notre portée, avec cette conscience écologique-là, cette ouverture aux communautés, à la diversité, Tu sais, on ne rentre pas dans les gros sujets là, de, par rapport au racisme, à l'immigration, etc. Ben, c'est des gros, gros sujets, mais ils sont partout sur la planète. Mais, ils sont partout sur la planète. Au moindre moment que tu es éduqué, là, tu vois que c'est, pas, c'est partout.
Ah, bien sûr.
C'est partout.
Puis j'aurais été curieux de savoir, parce que je pense que c'est un sujet dont on a déjà parlé, puis quand il y a tout le moment sur diversité versus solidarité,
ouais.
versus égalité, pardon.
Oui. Ou que c'est oui, ça, là, que ça a dû toucher, ça. Ça a dû toucher, ça. T'as raison. Dans le sens que la diversité a pris le pan de l'égalité. Mais c'est sûr que... OK, parlons d'un sujet, là, mais je sais pas quoi penser de ça. C'est que le Parti libéral, cette semaine, a dit que maintenant, on allait parler des personnes avec des menstruations. Là, il y a plein de femmes qui ont fait une pétition pour dire « Hey, hey, wow, là! » Je ne sais... Moi, qui suis ouverte à plein, je milite pour la diversité, les groupes LGBT. Je sais pas quoi penser.
Ben,
je suis troublée en tant que femme.
C'est intéressant. Il y a un grand débat dans le milieu
Donc, de la santé. Donc, ça revient à diversité, égalité. Là.
On parle dans le milieu de la santé parfois de personnes enceintes.
Ouais.
Au lieu de dire femme enceinte.
Oui.
Puis là, des fois, on va mélanger, on va dire femme et personne enceinte. Moi, je suis fourré, en fait. Là. Tu sais, comme je sais pas quelle posture adopter.
Non, mais est-ce qu'on dit, par exemple, personne...
Avec un pénis?
Oui, non, c'est ça, personne qui éjacule. Ou je sais pas.
Ben oui, ça arrive qu'on l'entende.
Ouais.
Est-ce que... Ben moi, en fait, c'est que... Puis moi, c'est quand on a traité de diversité sexuelle... Ouais. Je me rappelle, je cherche le nom de l'œuvre dont on a parlé. Sexualité et dissidence queer.
Ouais.
Qui est un collectif de différents essais, là, de plein d'auteurs et d'autrices. Moi, c'est une grande crainte, l'atomisation qu'il y a au sein de la communauté, la diversité sexuelle et de genre, que autrefois c'était comme... Mais en même temps, je comprends les frustrations des gens, parce qu'autrefois, c'était le mouvement gay, là, tu sais. Mais que... Et puis finalement, bien sûr que c'était pas que gay comme mouvement, et donc je comprends parfaitement cette volonté-là de regagner une identité pour les différentes personnes qui font partie de la communauté, mais en même temps, vient avec cette... Moi, je trouve qu'on s'est laissé, sans s'en rendre compte, je pense qu'on est teinté par ce capitalisme néolibéral, puis cette atomisation de l'individu, puis de nos communautés, en fait. Puis je pense qu'il y a un parallèle manifeste à faire avec cette individualisation-là et limite égoïsme-là qu'on voit. Puis il fait le débat aussi qu'on vient à militer pour des niaiseries, tu sais, comme des livres qu'on met à l'index versus la destruction de nos droits qui se fait à grande échelle à d'autres. Puis que ça, on va aller se battre pour une devanture de magasin, puis qu'après ça, le lendemain matin, tu sais, on coupe les taxes sur les riches, tu sais, puis que là, il n'y a personne qui
se revient. Reviens à la personne.
Mais, oui, mais c'est la solidarité, c'est ça, je te dis. On va se battre pour des micro-débats, mais que finalement, on perd de vue
l'égalité.
Ce qui nous unit comme humains et humaines.
Moi, à la rigueur, je m'en fous. Tu sais, personne avec... Ça. Je m'en fous. Appelez-vous. Moi. Je veux dire, mais c'est parce qu'on est au Québec. Dans le sens que les femmes, je pense qu'elles ont atteint une forme d'égalité, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mais
en comparaison à ailleurs, moi, j'ai une vision peut-être un peu romantique du Québec.
Ah, là. Mais on s'entend.
Si j'avais un endroit où je voulais naître, c'est bien ici, mais bon.
Puis moi-même, je suis chanceux, là.
Mais c'est pas parfait.
Non.
Mais c'est ça. Donc, revenons à cette égalité, diversité. Où est-ce qu'ils vont en venir en disant ça?
L'auteur?
Mais qu'est-ce qu'ils dénoncent en disant ça?
Ben, l'égoïsme, je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce qu'on s'entre-déchire sur des détails au lieu de s'intéresser à comment on s'élève ensemble collectivement et solidairement, en fait.
Tu parlais des livres, tu sais, des livres mis à l'index.
Mm.
Mais on serait mieux de s'intéresser au fait que les jeunes lisent plus. Mettez-leur des livres dans les mains.
Tout à fait.
Tu sais, Seigneur, au lieu de penser à interdire les livres, de toute façon, ils s'en foutent. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est.
Ouais.
Ah. OK.
Puis aussi, vraiment intéressant, toute cette... tout ce débat-là sur les micro-agressions, tu sais. Puis c'est, mon but n'est pas de faire la promotion des micro-agressions, mais...
Ah oh, non!
Bien, c'est vraiment bon pour toi. mais où je me disais, tu sais, au lieu de construire... Parce que c'est plate, mais la vie, ça comporte des micro-agressions. Tu sais, c'est plate, mais c'est fait comme ça. Tu sais. Puis au lieu d'essayer de faire des... De créer constamment des safe spaces, on peut-tu créer des individus qui sont capables...
Ouais, qui sont solides.
Qui ont les outils de défense intellectuelle mm-hmm. pour se protéger contre ces éléments-là.
Physique, t'sais. Intellectuel, psychique, mental.
Psychologique, tu sais.
Ouais.
Versus de toujours essayer de marcher sur des œufs puis de ne pas être capable de rien dire, tu sais. Puis, mon Dieu, je suis vraiment pas dans... On peut plus rien dire, c'est pas ça, mais il y a cette...
Non, mais je trouve ça super intéressant. Comment qu'on peut créer, éduquer... On revient toujours à l'éducation, un être humain avec une espèce de vision holistique du corps, du cœur.
Oui.
Genre, par exemple, tu dis quelque chose qui me touche, mais est-ce que ça me touche vraiment ou c'est quelque chose est-ce que je peux te le renvoyer puis que ça me touche pas parce que, au fond, tu comprends, j'ai assez de recul pour comprendre que, puis de faire la part des choses. Mais maintenant, c'est comme,
une sécurité affective.
C'est ça, d'avoir assez confiance en toi, tes moyens. Non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Ça, c'est, pour moi, c'est un débat parce que...
Je trouve que tout ça, c'est une lutte.
Oui, complètement. Complètement. Je sais pas si c'est une belle façon de finir notre aventure.
Mais là, j'aimerais rappeler la morale du livre. Quand même,
oui, mais est-ce que tu es mon ami?
Oh. Ben oui.
Ah, j'ai un ami.
Le peuple Guarao offre à cet essai la seule morale qui lui convienne, un être humain qui n'a pas d'amis. Est un être humain en danger. Et les fascistes n'ont pas d'amis.
Vraiment. Merci de cette discussion forte enrichissante.